Bien, alors écoutez, si je me souviens bien, la semaine dernière, nous avons vu qu'il y a en fin de compte deux lignées différentes qui procèdent à la Marichaud. La lignée de Caïn, dont on a commencé un peu à voir l'histoire et le développement, et qui mène à une impasse, à un échec. Et lorsque l'échec est diagnostiqué, lorsque, je ne reviens pas sur les détails, mais lorsque la société fondée par Caïn n'a plus d'espoir d'avenir, tous les sursis qui lui ont été donnés, les sept sursis, ont échoué, alors Dieu va susciter une nouvelle lignée, qui est celle de Cheth, à partir de Adam Rishon. Là, si je me souviens bien, nous aurons une parenthèse assez longue et importante sur la différence de nomination de ces deux enfants de Adam, Caïn, qui n'est pas dit dans le texte avoir été engendré à l'image de Adam, lui-même, dans le projet du Créateur, alors que Cheth est d'emblée défini, vous l'avez au début du chapitre 5, comme à l'image de Adam. Je vais signaler que vous avez différentes expressions employées dans ces premiers chapitres. Il faudrait que vous étudiez ça assez en détail. C'est parfois Bidmuto Ketsalmo, Betsalmo Kidmuto. Il y a une différence entre Tselem et Dmout. Lorsque c'est le cap, lorsque c'est le bet, je vous signale cela à l'avance. Mais si vous voulez, on peut l'étudier. Enfin, ça ne prendrait trop de temps pour une question d'érudition à proprement parler, mais importante. Et la différence qui était apparue, c'est que la lignée de Adam qui commence l'histoire de l'humanité à partir de Caïn, c'est un point de départ d'histoire qui doit rejoindre le projet messianique du Créateur, l'image que Dieu s'est faite de l'homme parfait. Alors que la lignée qui commence par Cheth, elle est d'emblée située le plus haut possible dans cette réussite du projet. C'est pourquoi le texte dit que Cheth est engendré à l'image de Adam, lui-même à l'image du projet du Créateur pour lui. Est-ce que c'est bien clair comme distinction? Et nous allons reprendre donc le dernier verset, l'avant-dernier verset du chapitre 4, et le dernier verset. Alors, le verset 25 du chapitre 4, après le bilan d'échec de la civilisation de Caïn, c'est « Vayada Adam od et ishto » et Adam connut encore sa femme. C'est dans ce « encore » que le Midrash va loger toute l'explication de ce qui est arrivé pour que Adam soit pris de nouveau par cette initiative d'engendrer, alors qu'il avait, selon le Midrash, arrêté les engendrements à la mort de Abel. C'était séparé de Chava lorsque Caïn a supprimé Abel. Et Vatenet Ben, elle enfanta un enfant. C'est la première fois qu'il y a l'expression de Ben dans les engendrements, dans le récit des engendrements. C'est donc un Ben Adam qui porte en lui la capacité de mutation messianique qui mène à l'homme réussi, à l'homme authentique, qui s'appelle le Ben Adam dans le langage des prophètes. Ve'ata Ben Adam, surtout chez Ézéchiel, mais dans d'autres prophètes. C'est un thème que nous avons peut-être touché déjà, je ne me souviens pas, vous le direz. C'est-à-dire, il y a l'histoire de Adam, qui est un effort d'engendrement du Ben Adam, qui est l'homme de l'identité messianique. Celui pour qui Dieu avait voulu créer le monde, l'homme qui a atteint la perfection, l'unité plutôt, des valeurs. Et il y a donc là une lignée messianique d'emblée. Et nous allons voir sa fonction par rapport à l'histoire de la société de Caïn est une fonction sacerdotale et précisée comme telle. Vatelet Ben. Vatikra et Chemoshe, elle lui donne une destination en l'appelant Cheth, qui chaque li Elohim zera racher, car, dit-elle, entre parenthèses et parenthèses, Dieu m'a stabilisé, m'a placé de façon stable, chat, zera racher, une autre postérité, tachat hevel, à la place de Abel, qui est Arago Caïn. Que Caïn avait tué ou par que Caïn avait tué. Le Midrash, sur ce verset et dans le livre de Ruth, indique que chaque fois qu'il s'agit de Zera dans le Mikra, il s'agit de la lignée messianique. Retenez cela, ça vous aidera à déceler par où passe la lignée messianique. Chaque fois qu'il y a Zera. Zera. Non, Zera. Postérité. Zera. Zara Oshel. Et ici, le Acher est utilisé, pas directement, c'est moi qui interprète un peu, par Judas Lévi, en particulier dans le Kuzari, qui indique, bien que nous n'ayons pas de source, en tout cas pas à ma connaissance, nous n'ayons pas de source directe, Judas Lévi indique que, alors que Caïn est le Ben Adam, comme je l'ai défini tout à l'heure, du point de départ de l'histoire pour arriver à rejoindre le modèle, le Ben Adam Amiti, Abel, lui, avait ce que le Kuzari appelle le Inyana Eloki. Vous étudierez, je suppose, dans l'école du Kuzari. Je ne sais pas si vous l'avez déjà défini, ce que le Inyana Eloki. C'est-à-dire, je ne traduirai pas parce qu'il faudrait trop de temps, le projet de Dieu à travers l'homme passe par certaines lignées. C'est les lignées qui seront l'objet de l'alliance, par où passe la bracha, avec la condition de sainteté, et tout le récit historique depuis le début jusqu'au temps messianique, c'est de chercher par où passe la bracha, l'abrit, la kdusha, c'est le inyana eloki, c'est-à-dire ce que Dieu cherche dans les engendrements de l'homme, par où cela passe. Je crois que c'est la formule faible, un peu de français vulgaire peut-être, mais la plus claire. Par où l'histoire passe, c'est ce que cherche le récit de la Bible. Alors, à chaque étape, à chaque seuil de mutation, l'alliance est conclue de nouveau, la bénédiction est transmise, et l'exigence de sainteté est de plus en plus précisée, de plus en plus affinée. Et donc, je signale cela, mais je crois qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut mettre en évidence. C'est que c'est la première fois, et le Midrash y assiste beaucoup, et donc c'est là que Judas Lévi en vrai, en parlant du Inyana Eloki, finalement, se dévoile dans la société d'Israël, à partir des patriarches. Dès que le texte se relie à ce thème de l'avènement messianique, eh bien, c'est très important de voir qu'il s'agit d'un effort qui surgit de l'identité humaine elle-même. Je dis cela pour vous mettre en garde contre les mythes concernant l'identité messianique, qu'elle serait divine. Mais le texte est clair, c'est de la nature humaine elle-même que procède le Ben Adam qui sera, dans les dénominations postérieures, le Mashiach. Ça veut dire qu'il y a eu, en particulier dans le christianisme, mais pas seulement dans cette religion, dans toutes les religions du sauveur divinisé, et au temps de l'apparition du christianisme d'ailleurs, ça vous devez le savoir, l'histoire des religions est suffisamment claire à ce sujet, ça fourmillait de sectes de ce type-là. Et il y en a une qui a eu l'histoire qu'elle a eue, parce qu'elle s'est emparée des cartes d'identité, de la carte d'identité d'Israël. Elle l'a dit, c'est la carte d'identité d'Israël. C'est-à-dire, je crois que j'ai entendu cela, grand rabbin Jaïs, on dispute notre identité avec nos propres papiers. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça dit. Et alors, mais là, il y a une indication très importante. C'est que cet effort de rédemption, de sauver l'humanité de Caïn, vient du dedans d'un optimisme de la nature humaine elle-même. Finalement, Adam prend son courage dans l'ombreur à deux mains et met au monde une lignée qui va avoir pour objectif et pour fonction de tenter de sauver l'humanité de Caïn. Et voilà, nous arrivons au verset 26. Un verset très important. Je vais essayer de vous expliquer un mot de ce verset pour indiquer la surprise que nous allons avoir. Chet est là. Chet pourrait être celui qui sauve l'humanité de Caïn. Il peut être le sauveur. Et l'étonnement que l'on a, c'est que lui-même va initier une lignée dans le monde. Il va avoir un fils. Et la Torah nous oblige à nous étonner. Vous allez le voir immédiatement. Et je m'explique. Si déjà l'homme pour qui le monde a été créé, à l'image de, et je ne reviens pas sur l'analyse, est engendré, c'est la fin des engendrements. Et on entre dans une autre période de l'histoire du monde, au-delà des engendrements. Vous étudierez cela lorsque vous étudierez les sources concernant ce qui se passe à la réussite de l'histoire, étant messianique, et le passage à Olam Haba. Voilà ce que dit la Torah. Ulchet Gamou Yuladve. Et Hachet, lui aussi, fut enfanté un fils. Vaïkra et Chemo Enoch, je ne traduis pas encore la fin du verset, et il nomma, suivant certains textes, c'est Chet qui le nomme, suivant d'autres, c'est Dieu lui-même, Enoch. Alors le mot de Enoch est très important. C'est un autre mot que Adam pour dire l'homme, comme vous le savez. La différence, c'est que le mot de Adam, sa connotation, c'est la nature humaine en général, en chaque homme, alors que le mot de Enoch, c'est la personnalité de chacun en chacun. Enoch désigne l'identité humaine dans ce qu'elle a de spécifique dans chaque personne. Chacun est un Enoch génial, radicalement spécifique pour lui-même. Nous sommes tous des Bnei Adam. Et l'utilisation de ces mots, Adam ou Enoch, pour dire l'homme, par le Mikra en tout cas, même si dans l'hébreu courant, on peut, quoi qu'il y a des règles littéraires malgré tout, mais on peut dire l'un à la place de l'autre, est très précise dans le Mikra. Je vais donner un exemple dans la Tfila pour indiquer ce à quoi je fais allusion maintenant. C'est que l'identité Adam est l'identité en général. Et à l'identité Adam en général correspond une relation à Dieu qui est aussi en général. Tandis que Enoch, c'est ce que Judas Lévi appelle, mais ça a été traduit par les historiens de la philosophie en français, le principe d'individuation. Seul un homme qui est quelqu'un peut connaître que Dieu est quelqu'un et pas seulement la divinité. Vous comprenez ce que je veux dire? À Adam correspond Elakut, Elokim. Tandis qu'à Enoch correspond Hachem. C'est ce que dit le verset. Azuchal Bikro Veshem Hachem. Alors, on a commencé à invoquer le nom de Hachem. C'est clair. Et j'ajouterai un mot dans la traduction. Alors seulement, on a commencé à invoquer le nom de Hachem, le salut est possible. Jusque-là, il y a la relation avec celui qui est Hachem. Hachem ou Elohim n'est connu que comme Elohim, parce que l'homme ne se connaît que comme Adam. Et pas encore comme Elohim. Alors, je crois qu'il faut bien réfléchir à cela. Il y a l'impersonnel de la nature humaine, mais il y a la personne de chacun. L'homme en général, c'est pas quelqu'un. Tel homme, c'est quelqu'un. Bon, en français, on n'arrivera pas à ce sens. Mais j'espère que vous comprenez l'idée. Le fait de dire que chaque Ben Adam est un Ben Adam, c'est encore impersonnel, un individu d'une espèce. La valeur de la personne comme telle n'est pas indiquée, n'est pas soulignée. Mais de dire que chaque Enoch est un Enoch nommé avec un nom personnel, eh bien, ça fait apparaître ce que Judas Lévi appelle le principe d'individuation. Alors, le dialogue avec un Dieu qui est quelqu'un peut commencer. Le dialogue commence par Dieu lui-même. Mais ici, on parle de l'invocation de Hachem. Qu'est-ce que ça implique ? Ah, Zoukha, l'Ikro, Bécher, Hachem. Que jusque-là, si on savait invoquer Dieu, c'était Elohim, mais pas encore Hachem. Ah, Zoukha, l'Ikro, Bécher, Hachem. Alors, l'explication que je vous donnerai d'abord sur ce gamme, c'est que Chet est trop haut pour prendre en relais la situation de la génération de Caïn, là où elle était. Il faut que cette envergure se diminue jusqu'au moment où il pourrait y avoir une prise en relais possible. Est-ce que l'idée est claire? Quelqu'un qui est trop haut ne peut pas s'occuper de quelqu'un qui est trop bas. Et on va voir la suite d'ailleurs. Je réponds à la première question. Pourquoi, à partir de Chet, il y a encore des Zodabos qui vont aller jusqu'à Noir? On va voir qu'ils sont tous trop hauts, jusqu'à Noir, 10 générations après. À ce moment-là seulement, on dira, voilà le consolateur, lui va nous consoler, il nous comprend. Bon, je vais beaucoup paraphraser sur cette idée, mais j'essaie de mettre en évidence le principe, avant de voir tout ce qui en découle. Dans la tradition juive, c'est l'inverse. Retenez bien cela. Et je vous donnerai un exemple prestigieux qui est celui du Gaon de Vilna. On raconte du Gaon de Vilna que c'est lui qui allait le Shabbat après-midi dans les assefotes des cochers de fiacres, il n'y avait pas encore de taxi, ou bien des commerçants, vous savez, dans les villes, les communautés juives traditionnelles, il y avait des chevrotes, par métier, les casquetiers. Ils avaient tous une chevra d'études. Ils étudiaient la Gemara, des fois le Zohar. Mais, vous voyez, comme on a dégagé depuis le temps des chauffeurs de fiacres, de Vilna. C'était à Fès aussi, la même chose, et à Péron, et à Tlemcen. Et alors, c'est le Gaon de Vilna qui allait leur faire le cours le plus grand qu'ils enseignaient au plus petit. Et malheureusement, avec le temps et avec le changement des structures de la communauté, de la société juive, ça a changé. Mais retenez bien ça, c'est le grand privilège des grands hachamim. Le Rosh Yeshiva, c'est lui qui fait cours aux débutants, c'est le shiur. Et ensuite, il y a la Hazara, il y a le Seder, et vous connaissez cette compréhension. C'est-à-dire, c'est le plus grand qui peut s'occuper du tout. C'est un principe de Kabbalah, d'ailleurs, qu'on trouve dans l'étude de la Kabbalah, qui est très très bien. Mais, voilà, là, nous ne sommes pas dans la lignée hébraïque. Dans la lignée hébraïque, c'est comme ça. Je me suis fait approuver dans le Vilna. La communauté de Vilna, après la mort du grand de Vilna, n'a plus nommé de ramène de la ville. Parce que qui allait reprendre le titre du grand de Vilna? Chez les chassidim de Breslav, il y a à peu près la même tradition. On les appelle les chassidim morts, en yiddish. Je ne sais plus comment ça se dit en yiddish. Pourquoi? Parce que leur maître est mort, alors ils s'appellent les tzadikim. C'est d'ailleurs les tzadikim, les vrais Breslav, pas les imitations. Les chassidim morts. C'est une tradition. Ou par exemple, je donnerais l'exemple du Rav Alfas, qui était le Rosh Beit Din de Fès, qu'on appelle le Rav Alfas, Rav Yitzhak Alfasi. Il avait le privilège de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah, quand c'était un Shabbat. Je ne sais pas si vous avez appris cela. Parce que la halakha ancienne était que, au Beit Hamikdash, au Sanhedrin, on sonnait le shofar à Rosh Hashanah, même quand c'était Shabbat. Et alors, il avait décrété, mais le Sanhedrin, c'est le Beit Din de Fès. Et alors, on sonnait le shofar. Mais depuis, lui, on n'a plus fait ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? On a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Et alors, chez les goïms, c'est l'inverse. Qui s'occupe de qui ? Quelqu'un qui est un petit peu plus haut. Et alors, c'est pourquoi ça fait du surplace. Et là, il y a donc ceci qui se dévoile. Ushet gamou, yulatvet. Et Hachet, lui aussi, dans ce gamme, vient l'inverse du projet des Toladot dans la lignée de Caïn. Dans le projet des Toladot dans la lignée de Caïn, on va du moins au plus pour rejoindre le Tselem Elohim. C'est clair? Tandis que dans la lignée de Shek, on va du Tselem Elohim, de Tzimtzum en Tzimtzum, de diminution en diminution, pour tenter de pouvoir prendre en relais la génération à l'état où elle est. On retrouve cela au temps d'Abraham. Noir, finalement, aurait pu la tenter, vous verrez le verset, lorsque Noir est né, il y a un soupir de soulagement dans l'humanité, celui-là nous sauvera. Les autres étaient trop... vous avez compris? Et on verra quelques exemples, pourquoi ils ont échoué, les autres. Mais ils étaient plus grands que Noir. Noir, c'est le dernier des tzadikim de la lignée. Et même lui n'a pas pu prendre en relais sa génération. Abraham réussira. Quand on arrivera à l'histoire d'Abraham, vous me rappellerez ce thème. C'est que jusqu'à Abraham, il y a une descente, à partir d'Abraham, il y a une remontée. Dans le langage de la théologie, on dit la chute et la rédemption. Bon, laissez ces mots français de côté, parce que les goïms s'en sont emparés, d'ailleurs c'est à eux, et on parlera de la Yérida et de la Aliyah. La Yérida, c'est jusqu'à Abraham, et la Aliyah commence avec Abraham. Alors Abraham a cette capacité d'être au niveau de cette irida de perdition, mais pour la mener vers la ralia. Vous comprenez le geste, okay? Il a pris en relais. C'est un peu en fait un enseignement d'un de mes maîtres. Il disait, et à propos d'un tout autre sujet, il nous disait, il faut se garder de juger les personnes. Parce que, à la rigueur, on peut juger les actes. Mais l'acte rapporté à la personne prend une signification différente. Ça dépend qui a fait quoi. Il nous disait, je vais vous raconter deux histoires de ce maître, je crois que ça vaut la peine. À ce propos, il me disait, voilà, vous voyez, deux juifs fumaient le Shabbat. Un c'est un rachar, l'autre c'est un sadique. Un sadique. Comment? Il y en a un qui fume déjà le Shabbat, celui-là c'est un rachar. Il y en a un qui fume encore, celui-là c'est un sadique. Vous avez compris ce qu'il me dit? Il dit, lui est dans un sens, l'autre est dans l'autre. Alors on les a vus au même niveau de l'échelle. Est-ce que c'est clair? Un jour, vous me disiez, c'est dans le Talmud, et pas seulement dans les fables des autres, que, avant de parler, il faut remuer ça. Les Chachamim, ils avaient fait peur. Et vous avez compris que c'était un enseignant. Il avait fait une conférence, je vous dis d'ailleurs qui c'est. C'était un grand maître d'Italie, qui s'appelait, Alfonso Pazzibici, son livre. Son fils était Roche Shiva, et alors il a fait une conférence à Livo, et puis il disait à propos du Shabbat, il disait, mais on lui avait posé une question sur les mariages juifs. Il dit, faire un mariage juif, c'est très grave. c'est aussi grave que fumer le shabbat. Alors, quelques années après, il y a un juif qui est venu lui dire, vous avez brisé ma vie. Je suis malheureux à cause de vous. Je vous ai entendu dire que se marier avec une non-juive, c'est aussi grave que fumer le shabbat. Pour moi, fumer le shabbat, c'était cool. Alors, je me suis marié et puis c'est une malheur de ma vie. Comment il faut se méfier de ce qu'on... Donc, alors, je reviens au... Je reviens au sujet. Là, nous allons avoir une surprise. Alors, le pshat, c'est quoi ? Enosh apparaît, grand espoir, on peut invoquer Shem Hashem, Yudke Havaya, Yudke Varke. Pourquoi ? Parce que Enosh a réalisé l'émergence, l'effectuation, je ne sais pas comment dire, de la valeur de la personne comme telle, alors elle peut se mettre devant celui qui est Dieu. Tant qu'on est encore homme à l'échelle d'une espèce humaine, l'impersonnel de l'espèce, et chaque individu, c'est un exemplaire de l'espèce, et assez A prime, A seconde, A tierce, mais tout ça c'est des A. Enfin, la même chose, l'uniformité, l'impersonnel, alors on n'a pas la capacité d'invoquer Shem Hashem. On ne peut pas dire Baruch Ata Hashem, qui est Elohim. On ne connaît que le fait qu'il y a un Elohim, on n'est pas devant lui, et donc il n'y a pas de salut possible. Je crois qu'il y a là un thème extrêmement important, ça c'est l'objet. Rashi va intervenir, il va nous faire lire tout à fait autre chose. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce Rashi. Alors, lis-le, Rashi. Azoukha l'écran de Shem Hashem. Lachon Choli, traduit. Il faut comprendre le mot de Ucha, le dit Rashi, pas dans son sens habituel, alors il fut commencé, la racine qui veut dire commencer, qui se dit en hébreu, les Achel, okay, de commencer, d'où vient le mot Techila, les Atril, notre forme du verbe. Mais Lachon Choli, d'un tout autre mot qui signifie un langage de profanation, les Halel. Et effectivement, en hébreu, la forme Ruchal peut se lire soit à partir du verbe commencer, soit à partir du verbe profaner. Alors Rashi cite un midrash, nous dit, alors que le pshat nous dit, alors on a commencé la vraie religion, à invoquer le vrai Dieu. Rashi va nous dire, c'est l'inverse qui s'est passé. Alors on a commencé à fonder l'idolâtrie. On va essayer de comprendre ce que nous dit Rashi. Alors continue Rashi, Azuchal, alors c'est la chanchouline, on a commencé, on n'a pas commencé, on a profané. Traduit. Par le nom de Dieu, on en a fait des divinités. Non, on a fait des idoles et des lignes. Et on leur a attribué la divinité. Oui, donc le Midrash Rashi transforme le pshat à l'envers. Le pshat apparent, c'est que alors on a commencé la vraie invocation. Rashi nous dit non, c'est là que l'idolâtrie a commencé. Alors on va faire, avant d'y arriver, une petite introduction. On ne peut pas ne pas remarquer que dans l'histoire de l'humanité, eh bien, il y a d'abord eu l'idolâtrie, et après, l'humanité a retrouvé la véritable voie religieuse. Avant la religion des patriarches, eh bien, il y avait l'idolâtrie. À travers chaque génération, il y avait des individus initiés, fidèles à la première connaissance qu'avait Adam Harishon, mais il est évident que l'histoire globale des sociétés humaines, c'est d'abord l'histoire de l'idolâtrie, et ensuite seulement l'histoire de la révélation. C'est étonnant. Ça veut dire que l'histoire humaine a commencé d'abord par être aberrante. C'est comme si l'histoire de la raison commençait par l'histoire de la folie. Alors, en fait, il faut modifier ce schéma. Il y a d'abord eu la vraie révélation, Adam. Et puis, ça s'est dégradé. Il y a eu la tentative de la lignée de Shem, la vraie révélation, Shem, et ça s'est dégradé. Et ça se dégrade à partir de la génération de Enosh, comme nous allons le voir. Et l'explication que je vous propose, je me base là-dessus essentiellement, entre autres sources, sur le Nefesh Chaim du Rav Chaim de Volodine. Il a consacré un chapitre à cela, en utilisant bien entendu les sources du Talmud et du Midrash. On a gardé une expression du Talmud qui est très courante et très utilisée, le Ovdei Avodazara Kedor Enosh, les idolâtres à la manière de la génération d'Enosh. C'est là que ça commence. Et Voilà de quoi il s'agit. Enoch a été le premier fondateur de religion. De religion pour le peuple, et avec une espèce d'attitude d'orgueil et de mépris du peuple, en disant ils sont trop bas pour leur dire la vérité, on va leur inventer une religion qui leur serait adaptée. Une espèce de Torah au rabais. Pensez au rabbin. Mais ça veut dire une sorte de judaïsme pour Goy. Vous voyez un peu ce qu'il y a eu à la formation du christianisme. Je pense que c'est ça. Et alors on a réinventé une religion à intermédiaire, en pensant qu'il n'était pas capable d'être lié à la vérité du vrai Dieu, de celui qui est Dieu, dont on sait jusqu'à présent que l'essentiel, qu'il est le créateur qui dirige l'histoire. Et pour la diriger, il est caché. Et alors c'est trop difficile apparemment, cette vérité simple, pour le peuple. Alors on invente pour le peuple une religion idole, en leur proposant des idoles intermédiaires. Voilà, j'ai un peu distrait très schématiquement, mais je pense que vous comprenez l'intention du Midrash aussi tranchée. Alors qu'on aurait dû fonder la vraie invocation, c'est là qu'on a inventé les idolâtres. Voilà, l'échec d'Enoch, je le formulerai comme ça. C'est l'orgueil du Kohen Gadol. Un Kohen Gadol orgueilleux devient fondateur de religion. Il aurait dû être Kohen Gadol, mais il a été fondateur de religion pour Goy. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors, il faut bien savoir cela, que ce genre de fonction est vulnérable à un orgueil incommensurable. Celui qui est chargé de transmettre la vérité et qui préfère se faire adorer plutôt que... Voilà, vous avez compris ce que j'ai peur. Et c'est pourquoi le Midrash dit de façon très claire, okay. On va diviniser la nourriture, ce qui donne la vie, ça va devenir la messe. L'hostie, vous avez entendu parler. Et les hommes qui la distribuent. Vous voyez à quel point Rachid est très précis. On sent à qui il avait affaire. Et dans la formulation de son de son
Midrash. Cette tentative
la différence, il a dit, c'est que ça ressemble, c'est tout. Il y a une différence entre le respect et l'adoration, ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Un culte. Je vais vous dire, moi j'ai connu les chassidim originels. Quand ils sont arrivés de Russie, je les ai connus juste après la guerre en France. Les Ashkenazes, les Russes, prends l'exemple des Lubavitch. J'ai jamais trouvé ça chez eux. Je l'ai trouvé chez leurs imitateurs. Vous savez qu'ils ont fait beaucoup de convertis. Et alors, je connais énormément de séfaradines qui sont devenus Lubavitch. Si je raconte une histoire. Et eux sont vulnérables à cette tentation. Je veux dire pourquoi. Parce que le monde séfarade, en général, n'a pas connu le monde chrétien. Et le monde séfarade a connu le monde musulman. Et dans le monde musulman, il n'y a pas cette idolâtrie du médiateur. Et le monde séfarade a une rigishut, une sensibilité religieuse et affective qui est très très vulnérable si elle n'est pas vaccinée contre le christianisme. Or les Ashkenazes, au bout de 2000 ans, étaient vaccinés contre le christianisme. Je pense que c'est clair. Et ça, il faut bien comprendre ça. Un séfarade ne peut pas comprendre un Ashkenaz avant d'avoir étudié 40 ans. Et l'inverse. C'est deux mondes différents, deux sensibilités, je dirais. La Torah, c'est la même. Mais malgré tout, là, enfin, je peux me permettre de dire ça, mais puisque, comme vous savez, je suis séfarade, mais je m'appelle Ashkenazi, c'est la même identité, mais dans deux expressions différentes. Parce que l'une s'est développée dans le monde musulman, et l'autre s'est développée dans le monde chrétien. Alors, un Ashkenaz est, j'ai dit vacciné, on peut trouver un autre mot, et pas habitué, c'est... immunisé, voilà, c'est bon, je cherche. Pas seulement au Moyen-Âge, j'ai connu encore ce temps-là. Quand en Europe, un juif vacciné, immunisé, passait devant un exil, il tournait une église. Il tournait la tête, il disait, Touma, j'ai dit en arabe, Touma, je devais le dire en yiddish, mais c'est le même mot. Il dit, l'impureté, ils sont vaccinés. Et, tandis que les séfaradim risquent d'être séduits. Heureusement que le temps a passé depuis l'arrivée des Méditerranéens en Europe, il y a 40 ans de passé au moins, on s'arrange de les vacciner. Mais vous comprenez, quand un sfarad rencontre la chassidut dans son affectivité profonde et simple et sincère, il risque de basculer dans ce que tu dis là. Mais ça arrive qu'au sfaradi, pour des choses. Est-ce que c'est bien compris? Je me souviens, il y a 15 années, un peu plus fort, peu importe. Une soirée dans une banlieue parisienne, dans une maison très riche d'ailleurs, d'un bourgeois nord-africain, qui avait fait des appels. Et qui était une soirée pour le ternillon d'ailleurs, pour ramasser l'argent du ternillon. Et alors je rentre, et puis je vois sur la cheminée la photo d'un rabbi avec une veilleuse à côté. Alors je n'ai pas hésité, j'ai fait tomber tout par terre, et la photo d'un rabbi. Et alors je lui dis, on ne met pas une veilleuse devant la photo d'un homme vivant, ça c'est l'idolâtre. Eh bien, chez un Ashkenaz, ce ne serait pas arrivé. Est-ce que c'est clair, ça? Je vous ai compris. Voilà, voilà ce que je dis. Mais alors, il faut être très, très humilié, très nuancé. Et ne pas confondre le respect, même s'il a des effectuations exagérées, et l'idolâtrie. Ça veut dire, quand un goy adore son idole, il adore son idole, surtout quand elle est vivante. Tu as compris, le respect, c'est autre chose. Un de mes maîtres m'avait donné une fois expliqué comment ceux qui sont étrangers à la chassidoute n'arrivent pas à voir ce qu'il y a dedans. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas chassid dans le sens sociologique, je suis sfaradi, j'en ai pas besoin, mais ça existe. Et il dit voilà, vous êtes dehors d'une salle de danse, et vous voyez les gens s'agiter. Alors vous dites, c'est ce monde de fou. Mais vous rentrez, vous entendez la musique, tout est clair. C'est bien. Voilà, il faut rentrer entendre la musique.
Mais qu'est-ce que tu veux? Si le bateau est présent pour chacun d'enfants dès le moment,
si c'est... Non, si c'est le jour de l'anniversaire, non, c'est une mitzvah. À côté. En général, je veux dire, chez les sfardim, on n'aime pas ça mettre à côté du museau, mais je ne pense pas que la fin interdise. Le jour de l'anniversaire. Mais on peut s'en passer. Vous savez, il y a une phrase dans la Gemara qui dit, on peut mettre la photo ailleurs. Une phrase dans la Gemara qui dit, Em aussi ibn fashot le tzadikim, zichronam em nashote. C'est-à-dire, on ne fait pas de tombe au tzadikim, de signe. C'est leur souvenir qui est leur. Vous avez besoin d'avoir la photo de mon cher Abel. Bon, il y a des gens qui, par piété, encombrent leur mur de photos de rabbins. Mais il faut faire attention. Est-ce que c'est le respect ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Alors, moi je connais surtout la sensibilité du monde sfarad. Ça risque de basculer là-dessus quand c'est fait à l'européenne. Alors qu'à la nord-africaine, il n'y avait pas de danger. Parce que le goy lui-même n'était pas comme ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Jamais on n'a connu ça. Aujourd'hui, il risque d'y avoir des industries de ce genre. Bon, vous connaissez toutes ces choses. Il ne faut pas dire de calomnie, on n'est pas sûr de la famille. Bien. Mais par contre, là, ce qui est enseigné à propos des vaches, c'est très précis dans le Midrash. On a divinisé les véhicules du salut. Voilà la fondation de l'idolâtrie. Vous avez compris pourquoi, et je vous le répéterai très très souvent, pour méfier de ces analogies fausses. Quand je vous parle, par exemple, de la relation entre le judaïsme et le christianisme, qui est un des problèmes du temps, en particulier après la Shoah, le trauma de conscience qu'il y a dans la conscience chrétienne, l'apparition de l'État d'Israël, c'est un trauma encore plus profond pour la conscience chrétienne, parce que si c'est le peuple juif qui est Israël, alors l'Église, c'est quoi? Et ça s'inverse, pendant 2000 ans ils ont parlé du mystère d'Israël, maintenant ils commencent à parler du mystère des chrétiens, qu'est-ce que c'est? Mais de parler d'une espèce d'analogie de deux religions monothéistes de la Bible, c'est très dangereux, parce qu'il s'agit d'une idolâtrie, et la pire des idolâtres, ils adorent un juif, je ne sais pas si vous en avez, pour le faire. Bon, alors je reviens au problème. Je pense que ça peut vous intéresser un jour à la fin de l'année. Peut-être on étudiera qu'est-ce que la tradition juive pense de cette religion. Je ne parle pas des chrétiens, je parle des chrétiens. Les chrétiens, ça peut être des gens très bien. Okay. Les chassidim mutar olam, pas les fi halakha. Vous savez que les chassidim mutar olam, en principe, doivent obéir au Shiva Mezouz de Benenoir, et eux, c'est en question. Ils avalent les huîtres, et Ben Mina, et Ben Minahai. En conséquent, ils sont hors du. Mais c'est une autre histoire. Et ce que je veux dire, c'est que on s'est habitué depuis l'émancipation à admettre comme à l'ensoi les intuitions de la conscience chrétienne jugeant le judaïsme. Il faut inverser ça. Et il faut récupérer les intuitions de la conscience juive jugeant le christianisme. Et ça, les juifs sont pas habitués de notre temps. Donc ça vaut la peine d'utiliser ça une fois, mais je referme la parenthèse. En tout cas, l'origine est là. Oui, c'est ce que je... Et c'est là que s'arrête le chapitre. Oui, l'incapacité d'admettre le repenti, donc de recevoir la Torah. La conscience théologique. Mais l'idolâtrie, elle est là. Je ne peux pas dire que, on dirait de Caïn qui a été idolâtre. Païen, oui. Idolâtre, c'est autre chose. Et, alors, je voudrais quand même vous donner un complément d'explication sur cette note de Rachid. Essayons de réfléchir à la logique même de ce type d'exégèse du Midrash. Ne lis pas commencer, lis profaner. Et vous voyez, les implications sont très importantes. On nous explique par là, de façon profonde, comment l'histoire de la religion a commencé par les idolâtres. Mais c'est basé sur une exégèse midrashique. Ça veut dire, est-ce que c'est une coïncidence que le mot de Ruchal pourrait être lu comme ça ou autrement? Alors je vous demandais de chercher un verset à propos d'Abraham. Je ne l'ai pas en tête. À propos d'Abraham, il y a un verset qui nous explique cela. Il est dit d'Abraham, « Vaïkra Beshem Hashem ». Rappelez-vous le verset? Il y a deux fois d'ailleurs, mais dans l'histoire d'Abraham. Je vais chercher le carré. Je vous explique d'abord le sens. Abraham, nous dit le texte, a invoqué le nom de Dieu. Ici, on nous dit, on a commencé à invoquer le nom de Dieu. Alors, si on s'habitue, elle est athléa, je pense en hébreu, ce que je vous explique là, commencer et s'arrêter au commencement, c'est une profanation. Le commencement, et il n'y a que ça, c'est une profanation. Est-ce que c'est clair? Je vais vous citer le loi de la Mishnah. Il est interdit, dans la Mishnah de Megillah, il est interdit d'épeler le Shemavaya. Celui qui épelle les lettres du Shemavaya. Ça veut dire, il y a quatre lettres qui ensemble ont une unité de sens. Isoler une des dimensions, c'est faire apparaître une idole. Alors commencer l'invocation et s'arrêter au commencement, c'est faire apparaître une idole. C'est profane. Eh bien, on ne le prononce pas. Vous ne savez pas que le schéma baïe est imprononçable. On dit Adonai, qui est un substitut. Hein? Eh bien, je vais vous dire, c'est une étude d'abord. Dans l'étude, c'est différent. Et puis, chez les Sfaradim, on avait l'habitude de dire Yud De Vav De et jamais le He. Chez les Ashkenazim, on a l'habitude de dire un kouf à la place du hé. Okay. Dans tous les cas, on ne prononce pas, mais l'idée, et le Patarelia vous l'explique, Konman de Afrish, tout celui qui sépare une mida d'une autre, c'est comme si. C'est, hein? Celui qui sépare une des midot d'une autre mida porte atteinte à l'unité du nom. C'est rare? Oui, mais si tu t'arrêtes là. C'est ça. Commencer et s'arrêter au commencement. Non, tu as compris l'idée. Ça veut dire séparer le yud du hé. Énormément de rites dont on se demande pourquoi ils sont comme ça et pas autrement se rattachent là. Par exemple, les quatre verres de vin du César de Pessah. Dans le rite Sfarad, on ne dit pas de bracha entre le premier et le deuxième et entre le troisième et le quatrième. Alors que chez les Ashkenazim, on dit bracha dans l'entrée. Ça se rattache là. Parce que les quatre vers correspondent aux quatre mondes et Yudke et Vatke. Et alors, l'idée qu'il y a dans cette Mishnah, ça veut dire mettre en évidence une des dimensions de l'unité des valeurs et que cela, c'est ça l'idole. Je vais élargir un peu ce principe si l'idée est claire. Et alors, la Gemara, je ne me rappelle plus où exactement on peut le retrouver. Si tu vois un idolâtre adorer son idole, ne te moque pas de lui. C'est ton Dieu qui croit adorer, mais casse l'idole. Vous voyez, vous savez, l'hérétique, c'est l'autre croyant. Okay. parce que c'est de leur croyance, c'est ça la critique. Mais dans sa sincérité propre, dans sa sincérité propre, c'est le vrai Dieu qu'il faut adorer. Par conséquent, ne te moque pas de sa sincérité, mais casse son idolâtre. Parce qu'Abraham a donné l'hospitalité aux idolâtres, mais il cassait la rue. Je pense que c'est bon. Alors voilà, on comprend quelque chose que la Chassidoute a beaucoup exploité d'ailleurs. Dans chaque idole, il y a une étincelle de sainteté qui est prisonnière. Alors pour la délivrer, il faut casser l'idole. C'est pas pour rien qu'un mythe est vivant. Il y a quelque chose qui est vivant là-dedans. Mais c'est encore une fois une étincelle de sainteté prisonnière d'une écorce, d'une clipade, de sa fille d'idole. Et alors, c'est pourquoi l'unité des valeurs est au-delà de toute représentation. Dès qu'on représente quoi que ce soit, on a brisé l'unité des valeurs. C'est cette idée qu'on retrouve là. Commencer l'invocation, dire un peu de la divinité, c'est faire apparaître une idole. Vous voyez cette différence entre Abraham invoque Shem Hashem, entier, alors que le temps de Enoch, Uchal Likro. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas lire ce verset dans cette deuxième explication, dans l'ordre chronologique. C'est dans ce temps-là qu'on a commencé. Mais on a commencé le commencement de l'invocation et pas plus. Vous avez compris le... Là, on a fait apparaître les idoles. Je ne sais pas si je vais raconter une fois ce midrash que j'ai inventé. Il faut savoir que c'est interdit d'inventer les midrash. Mais c'est une disposition pédagogique. Je l'avais raconté à Marianne autre l'année dernière. C'est que quand Dieu a créé, il lui a dit, si tu es sage, tu auras une image. Et rendez-vous au Sinaï. Et quand Israël, en fin de compte, délégué de l'humanité, est arrivé au Sinaï, Dieu lui a dit, tu seras sage et tu n'auras pas d'image. Et tu ne te feras pas d'image. Parce que les images, c'est des mythes qui s'emparent de vérités partielles et qui deviennent dévastateurs. Elle n'a aucune idée. On peut le lire même au niveau de la civilisation contemporaine, qui est la civilisation de la publicité et de la propagande. Il y a des images qui deviennent vivantes parce qu'elles s'emparent d'une étincelle de vie, et puis ça devient des mythes, ça devient mythique. Et ne croyez pas que le langage moderne s'est complètement laïcisé. On a gardé dans le langage moderne le langage de l'idolâtrie. On parle des stars, des étoiles. On parle, les amateurs de football parlent de leurs idoles. Même au cinéma. Avec le langage est resté. Et alors, il faut savoir que ce sont des mythes qui sont effroyablement dévastateurs. Qu'est-ce qui se passe dans une partie de football? Il y a ici un des mystères du monde qui est mis en jeu. Et alors, ça empoigne les foules, ça les rend fanatiques, et il y a des morts et des blessés. Vous avez remarqué ça? Qu'est-ce qui fait travailler ces foules civilisées, qui deviennent des cérémonies païennes, sous forme moderne? On vous rassemble 40 000 personnes pour voir un ballon passer d'un côté. Qu'est-ce qui se passe? Toute l'industrie qui se développe là autour, et quand il m'arrive d'écouter la télévision israélienne, des comptes rendus de matchs. Oui, c'est Karyanim, comment bien penser, c'est reporter qui parle hébreu. Et avec un sérieux, ils ne se rendent pas compte qu'ils récitent les litanies païennes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous voulez. Mais ils ont un sérieux métaphysique quand ils parlent de ces choses-là. Alors c'est un mythe qui travaille, la vérité. Est-ce que c'est clair? Quel est le mythe? J'attendais la question. C'est pas le sujet du cours.
Non, pas être fan de l'État.
Je vais vous dire un peu, c'est vrai.
Non,
on ne
peut pas être en fan de l'État.
Mais il faut être lucide. Il faut savoir de quoi il s'agit. D'ailleurs, d'être fanatique en général. Je me rappelle, un ami qui a essayé de répondre à un ami qui habite Strasbourg. C'est le fils d'un grand ami Chacham et qui est lui-même très très d'un. Un jour, il était dans un touriste et il expliquait très sérieusement qu'il ne pouvait pas faire ça.